S'entraîner sérieusement, sans se prendre au sérieux, c'est mon mantra depuis 20 ans que je cours. Je suis Nico, aka Running Addict, fondateur de Campus Coach, l'appli running qui personnalise votre entraînement. Ici, c'est Endorphine, le podcast conçu pour vos footings. Je vous partage ma passion pour la course à pied, mon expérience de coureur et celle des personnes qui m'inspirent. Le but, se motiver à courir et à progresser tous ensemble. Let's go! Les amis, on est parti pour un nouvel épisode d'Endorphine, le podcast qui vous accompagne dans vos footings. On va partir ensemble encore une fois pour échanger à propos de la course à pied. Et autant vous dire que cette fois, eh bien, je vais faire mon... pas mon mea culpa, c'est pas le mot, mais je vais être on ne peut plus transparent comme d'habitude, puisqu'on va pas se cacher, même si aujourd'hui on va parler du mental, de l'impact du mental et de l'état d'esprit sur la performance. Eh bien là, il y a une semaine, j'étais à Zurich pour un petit semi-marathon et on va pas se cacher que j'ai merdé comme ça ne m'était pas arrivé depuis extrêmement longtemps. J'ai même cherché dans ma mémoire depuis combien de temps ça m'était pas arrivé et j'estime ça au semi de la Nouvelle-Orléans en 2018. Donc ça faisait 6 ans que j'avais pas connu un tel revers. Mais vous allez voir que ça va. Il n'y a pas de souci avec ça. Au contraire, j'ai rebondi depuis. J'ai eu une petite semaine de vacances qui était plus que nécessaire. Et j'ai eu des bons entraînements ensuite. Donc, comme on dit souvent, c'est pas l'échec qu'il faut retenir, c'est comment on s'en relève. Et bah là, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Même si le but, c'est quand même de vous parler de mental et de vous donner des astuces. On va juste s'appuyer sur le fait que le mental n'est pas infaillible et que ça arrive. Qu'il y ait des moments où ça passe pas. Comme tout le monde, on est tous humains et il y a des moments où on veut ou on veut pas d'ailleurs. Vous allez voir. Je vais pas rentrer dans le détail. Tout ce que je peux vous dire, c'est que entre 2018, cette petite course de la Nouvelle-Orléans et ce semi de Zurich, déjà c'est deux semis, des courses qui me réussissent bien d'habitude les semis, mais là, dans ces deux cas, ça a été une explosion en règle et peut-être qu'elle était prévue d'avance. Au final, je me rappelle de 2018 où je m'étais dit « Mais qu'est-ce que t'es allé foutre à aller courir un semi en plein soleil au printemps alors que tu viens du Québec où t'es sorti de la neige et des températures négatives ?» Bref, les conditions n'étaient pas réunies pour une belle performance. À Zurich non plus. Mais c'est pas de ça que je voudrais qu'on parle aujourd'hui, même si le choix de la course que l'on va faire est un facteur important dans la performance. Il faut pas se tromper sur quand est-ce qu'on choisit ses courses. Où est-ce qu'on les choisit? Est-ce qu'on va avoir le contexte avant pour y arriver en forme? Bon, là, c'était un objectif même ni A ni B, je dirais un objectif C. J'y allais en mode ça passe ou ça casse et advienne que pourra. Bon, bah voilà ce qui est advenu, on va en parler. Mais j'avais quand même l'intuition que ça se passerait pas extrêmement bien vu le contexte des dernières semaines. Et spoiler, je vais vous le dire tout de suite avant d'aller dans le détail. J'ai abandonné, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai abandonné la course, je n'ai pas fini ce semi de Zurich. Et donc aujourd'hui, on va parler du pouvoir du mental, dans le positif, parce que la majeure partie du temps, ça peut nous aider, mais aussi dans le négatif, parce que c'est un cercle vertueux autant qu'un cercle vicieux. Une fois qu'on est parti dans le négatif, ça peut être très compliqué d'en revenir aussi. Mais je vais vous donner des petites astuces pour essayer de ne pas tomber dans ce négatif qui amène vers les tréfonds du mental. Avant ça, le petit sponsor du podcast, eh bien, c'est toujours Campus Coach, la plateforme qui fait vivre une expérience personnalisée à chaque coureur. Campus, c'est pas juste des plans d'entraînement, c'est votre coach, celui qui vous explique, qui vous conseille, qui vous rassure et surtout qui adapte l'entraînement à votre profil, car chaque coureur est différent. Si vous voulez l'essayer, les plans 12 semaines sont toujours gratuits. Et pour ceux qui veulent un entraînement individualisé aux petits oignons, je vous offre un mois avec le code RUNNINGADDICT. Le sommaire de ce podcast, du coup, bah, on va revenir un peu plus en détail sur ce semi de Zurich et ce que j'en tire. C'est surtout ça qui est important, c'est les conclusions que j'en ai, parce que oui, ça s'est mal passé, ça arrive, mais il faut en tirer du positif, il faut voir le verre à moitié plein et pas se morfondre sur une performance comme ça. Et ensuite, on va aller directement, profondément sur l'impact du mental sur le corps. On dit souvent, en tout cas, vous avez sûrement déjà entendu dire que le mental était plus fort que le physique et que dans une course, c'était le mental qui gérait et pas le physique. Bon, ça tire un petit peu le trait, mais je pense quand même que le mental a beaucoup à jouer, en tout cas pour quelqu'un qui s'est préparé pour une course. Si on n'est pas prêt du tout physiquement, le mental ne pourra rien faire, là, il n'y a pas de doute. Par contre, si on s'est préparé à peu près correctement, eh bien, le jour de la course, beaucoup se joue dans la tête. Et donc, on va en parler. On va faire la distinction mindset mental, état d'esprit et mental. Pour moi, c'est deux choses différentes. Et on va aussi parler du fait que ce mental, il est remis en question à chaque entraînement, à chaque course. Qu'on court depuis 6 mois ou depuis 20 ans, c'est la même chose. Malgré l'expérience qui aide à voir venir les choses qu'on a déjà vécues, au global, à chaque fois, c'est remis à zéro. Et c'est compliqué. Mais ça fait partie du jeu et ça fait partie du challenge de la course à pied. On va aussi parler d'adapter son état d'esprit à sa forme du jour, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Ça ne sert à rien de se mettre des objectifs de fou si on n'est pas prêt à ça. Et l'état d'esprit, il peut dépendre de plein de choses. Il peut dépendre de ce qu'on a vécu dans la semaine, de son état de fatigue, de à quel point on s'est préparé pour une course. Bref, c'est à l'entraînement ou en course, il faut y aller avec le bon état d'esprit et faire en fonction de la forme du jour et pas se mentir à soi-même. On va parler un peu de difficulté aussi. La difficulté prévue d'une séance, d'une séance ou d'une course, mais quand on est à l'entraînement, la difficulté prévue d'une séance doit déterminer l'état d'esprit et le mental qu'on va y mettre. C'est quelque chose d'important. Il faut analyser ça dans le sens où les séances clés, il faut y aller, il faut se préparer mentalement pour les faire, sinon on a de grandes chances de les rater. Je vais vous donner quelques petites astuces mentales aussi. Je les ai déjà données ailleurs, mais là on va les prendre sous le prisme de ce que j'ai dit avant. Et à la fin, je vous parlerai de trail. Parce que ce semi, c'était la fin de ce début de saison où je faisais un peu de route. Là, on va passer en mode trail, car il y a une grosse course qui arrive dans un mois maintenant, un mois tout pile à l'heure où j'enregistre, et j'ai envie d'y être en forme. Tout sera fait pour que je sois en forme, je vais vous expliquer ça. Maintenant, ce semi de Zurich. Alors oui, on y revient, j'ai abandonné après 16 km. Pourquoi ? Parce que j'avais plus rien à gagner, j'avais seulement des choses à perdre. Donc j'allais dans cette course en mode « ça passe ou ça casse », clairement, je ne m'attendais pas au scénario que j'ai eu quand ça a cassé. Vous allez voir qu'il y a des fois, ça casse un petit peu. Là, ça a cassé comme jamais, j'ai envie de dire. Après, est-ce que ça a cassé parce que j'y allais avec un état d'esprit défaitiste, que j'étais pas en grande confiance, que je savais que j'étais pas préparé ? On parle souvent de la prophétie autoréalisatrice. Bon, là, il y a peut-être une grosse part dans cette performance de prophétie autoréalisatrice. Je savais dans ma tête qu'il n'y avait quasiment aucune chance que ça donne un RP aujourd'hui. Mais j'avais envie de courir vite, j'avais envie de voir comment mes jambes réagissaient à une allure semi alors que je ne l'avais même pas travaillé. Et du coup, j'ai pris le risque maximal sur ce jour de course. Je suis parti sur les bases de mon RP, donc sub 1h13, 3,26 au kilomètre, en me disant on verra ce que ça donne. Mais spoiler, quand on ne se prépare pas pour une course en particulier, il y a de grandes chances qu'on n'arrive pas à tenir jusqu'au bout. Et le mental, malheureusement, comme je le disais, c'est une des parties qu'on va voir aujourd'hui, il se remet à zéro à chaque course. Là, il était proche de zéro. De toute façon, vous le verrez quand on publiera la vidéo. Les petits commentaires que j'ai en tête que je faisais avant la course, ils n'étaient pas positifs du tout. Bon, c'est aussi lié à la météo qui était exécrable sur ce week-end à Zurich, mais ça, c'est une excuse. Là, on n'est pas là pour chercher des excuses pour l'instant. Le fait est que pour réussir une course, il faut accepter la douleur. Et moi, je l'ai refusé. J'ai tellement refusé que j'ai lâché bien avant mon seuil de douleur habituel. Oui, j'ai lâché à un moment où ça commençait à faire mal. J'ai fait 8 km à mon allure semi, donc à 3,26. Mais la douleur commençait à monter petit à petit. C'est un classique. Et au moment où j'ai commencé à me dire « Oh, de toute façon, il n'y a aucune chance. Je sais que je ne la tiendrai pas jusqu'au bout, cette allure. » Et quasi instantanément, mon cerveau a dit « Mets le clignotant, arrête. » Les classiques, les pensées qu'on va avoir sur n'importe quelle course. Sauf que ces pensées-là, quand on a l'état d'esprit positif, qu'on est à fond, eh bien, on va pouvoir les contrer et on va pouvoir être plus fort que ça. Là, bah, tout simplement, j'ai été faible. Point. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus que j'ai été faible mentalement sur cette course. Et après, on peut se chercher des excuses, des circonstances atténuantes, mais il faut d'abord accepter ça. Dans la majeure partie des cas, le fautif, bah, c'est nous. Si on a accepté de ralentir, on aurait sûrement pu continuer un petit peu plus loin, au moins, et d'essayer d'aller jusqu'au bout en donnant plus. Souvent, quand les courses les moins réussies, celles dont on est le moins fier, eh bah, c'est nous-mêmes le fautif, tout simplement. Il ne faut, pas se cacher derrière autre chose. Après, ça n'empêche pas d'aller analyser qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux dans son entraînement, dans son approche de la course, évidemment. Mais je pense qu'il faut d'abord se dire « Ok, c'est ma faute, il y a des choses que j'ai mal faites, maintenant allons analyser ça » et pas se chercher des excuses en disant « Non, non, c'est pas ma faute, c'est la faute à ça. » Voilà. Mais dans tous les cas, ça arrive. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que oui, quand on se loupe, c'est de notre faute, mais ça arrive. C'est pas un drame. C'est de la course à pied déjà dans un premier temps, donc clairement il n'y a pas de mal. Et bah, de mon côté, ça ne m'a pas affecté du tout ou presque pendant les premières minutes. Évidemment, comme toujours, un abandon, c'est pas agréable. Mais je savais en fait les dernières semaines que j'ai vécues que j'arrivais vraiment cramé sur cette course, que j'avais les vacances qui arrivaient la semaine suivante et que... En fait, mentalement, j'avais juste envie de rentrer, me poser au chaud et c'est tout, quoi. Donc, quand on est dans cet état d'esprit-là, c'est sûr que la course, elle est compliquée. Donc, si on regarde factuellement, est-ce que j'aurais pu tenir plus longtemps sur cette course à mon allure semi ? J'en suis certain. J'aurais pu tenir au moins, allez, 12-13 km et pas 8 comme j'ai fait puisque j'ai craqué... J'ai lâché, c'est pas la même chose, au bout de 8 km. Donc, je suis à peu près sûr que j'aurais pu en tenir 12 ou 13. Mais je suis aussi à peu près sûr que j'aurais pas tenu 21 dans tous les cas. Donc, c'était une belle séance. C'est bien d'avoir pu tester l'allure semi, mais dans tous les cas, il n'y aurait pas eu de RP. Et vous allez voir que les conditions de course, dans tous les cas, m'en auraient empêché si jamais j'avais encore été dans le coup un peu plus tard dans la course. Physiquement, en tout cas, j'étais pas si mal. Hein. Dans les jambes, ça tournait bien. C'était solide et mon cardio, bah, il n'a pas dépassé les 166 sur ses 8 premiers kilomètres. Sachant que mon seuil est à 171-173, on était encore bien en dessous de mon seuil. Attention quand même avec cette analyse, des fois, petite astuce que je vous donne, votre cardio peut être bas et peut être trop bas. Si vous êtes extrêmement fatigué, c'est possible que votre cardio ait du mal à monter. C'est-à-dire l'inverse. Il y a deux versions de la fatigue. Il y a la fatigue classique où le cardio est très haut tout de suite et on sait que ça ne va pas aller. Et la fatigue qui commence à être un stade un peu extrême où là, le cardio n'arrive plus à monter. Et là, c'est le plus dangereux des stades. Il faut faire attention quand on en est là. Donc, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ce que je retiens, c'est que mentalement, j'étais revenu comme en 2004 quand j'ai débuté la course à pied, puisque si on regarde les temps, bah, 8 km à 3,26 et après quand j'ai ralenti, j'ai pas ralenti à moitié, je suis passé à 4,10, directement 4,10. Donc là, c'est la preuve que le mental il est à zéro, j'ai même pas essayé de me remettre de ralentir un peu et de trouver un rythme où j'étais plus à l'aise, c'était non, mes clignotants, point. Et en vrai, au moment où j'ai mis le clignotant, c'est presque un symbole. On a pris tempête de grêle, je pense aux 200 mètres après le moment où j'ai ralenti. Tempête de grêle, méga vent de face, la grêle qui s'est transformée en neige sur la suite du parcours. On était autour de 1-2 degrés. Donc je vous laisse imaginer un petit peu le plaisir qu'il y a à courir dans ces conditions. Et je pense que ça n'a pas aidé, clairement. Hein, on va se le dire, c'est... une des courses avec les pires conditions que j'ai eues depuis bien longtemps, on se serait cru dans ma prépa du marathon de Boston en 2022 au Québec. Donc, le bilan qu'il faut faire, moi je pense qu'il faut toujours faire un bilan de ces courses, qu'elles soient réussies ou pas réussies, et surtout il faut essayer de le faire en voyant le verre à moitié plein. Le bilan, c'est pas juste pour se dire, se chercher des excuses ou se dire « j'ai été une merde », ça sert à rien. Le but, c'est de se dire « qu'est-ce que je peux améliorer ?» Alors, de mon côté, le mental, il était à zéro. Ça, je suis pas très inquiet, je connais la recette et je vais revenir sur mes courses objectifs à 100%, il n'y a pas de souci. Je connais aussi mes facultés mentales où je peux être à 100% ou à 0%, mais je suis rarement entre les deux. Soit j'ai envie, soit j'ai pas envie. Et quand j'ai pas envie, eh bah, c'est compliqué. Mais là, je suis pas inquiet sur ce point-là. Le physique, bah, au final, très positif. Tenir 8 km à son allure semi sans être totalement dans le dur, bah, c'est pas si mal au final. Je me dis que ce 3,25, 3,26 au kilomètre, donc ce petit 1h12 au semi, il devrait être faisable avec une prépa correcte. Et cet abandon, eh ben en fait, je suis très content d'avoir abandonné. Si je vous donne le contexte, j'ai abandonné au 16e kilomètre, juste à côté du tramway pour retourner à mon hôtel. J'étais totalement gelé et il restait 5 km de course qui m'auraient emmené beaucoup plus loin que cet arrêt de tram. Donc il aurait fallu que je fasse un retour à pied dans le froid et abandonner, ça fait jamais plaisir. Mais je savais que je voulais retourner au trail assez rapidement. Déjà, j'avais fait sauter des sorties trail pour pouvoir faire ce semi. Donc là, je voulais revenir au trail dès le jeudi, donc 4 jours après ce semi. Et pour ça, pour moi, c'était une bonne chose d'arrêter les frais, en fait, et de me remettre en mode en santé pour ces sorties trail du jeudi. Spoiler, elles ont été très bonnes, ces sorties. On en reparle un peu plus tard. Mais l'abandon, je sais quand j'ai marqué que j'avais abandonné, certains m'ont dit « Mais pourquoi jamais on abandonne en course ?» Alors, je suis assez d'accord que la majeure partie du temps, je n'abandonne pas. Perso, j'avais pas abandonné depuis 2006 sur un 800 mètres à l'époque et je m'étais dit « Plus jamais tu fais ça ». Mais c'était des distances courtes. Donc, j'ai pas abandonné depuis 18 ans. Mais pour autant, je regrette pas. J'avais plus rien à gagner à part de tomber malade, de fatiguer encore plus et finir un semi, au final, ça m'aurait rien apporté. J'en ai déjà fini des dizaines, des semis. Donc, je suis très content d'avoir abandonné. Dans certains cas, ça peut être intéressant de le faire. C'est pareil sur un marathon, si on est au 5e kilomètre, au 10e kilomètre et qu'on sent que ça va pas du tout dans le sens qu'on veut aujourd'hui. Est-ce que ça vaut le coup d'aller en faire 42 pour s'exploser la gueule, mettre un mois à en récupérer? Ça dépend. Si c'est le premier marathon et que c'est votre objectif de fierté de finir, peut-être que ça vaut le coup. Si vous en êtes à votre 8e marathon et que vous êtes là juste pour aller faire un RP et prendre du plaisir à le faire, ça vaut peut-être pas le coup. Bref, dans chaque cas, il faut se poser la question. Mais je dirais quand même que dans la majeure partie des cas, l'abandon n'est pas une option. Il faut juste garder ça pour des cas où le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas trop m'engager sur des courses non objectifs. Je l'ai très peu fait ces dernières années. J'ai été soit sur des courses d'entraînement que je courais à allure objectif, soit je faisais pas de course. Et du coup, avec le mental qui est un peu on-off, c'est très facile d'avoir le mental à on quand on est préparé à 100%, qu'on a tout mis pour une course et qu'on sait qu'on a les moyens de la réussir. Quand on est sur une course B ou C où on y va sans être totalement préparé, moi j'ai un peu plus de mal avec ces courses-là. Ça me redit aussi que potentiellement les courses B ou C, je n'en mettrai pas forcément, en tout cas pas sur route. Peut-être plus en trail où la performance est un peu plus subjective, mais sur route avec des allures à tenir. Voilà. Bref, assez parlé de ce semi de Zurich. Passons à l'impact du mental sur le corps. Parce que je pense que c'est important d'aller dans le détail de tout ça et de comprendre pourquoi on peut être très fort mentalement ou très faible. Donc déjà, je vais redire ça autrement. Pour moi, état d'esprit et mental sont deux choses différentes et même très différentes. On va parler des deux parce que si on combine le bon état d'esprit et un mental fort, c'est là où en fait on devient imbattable sur une course. Parce qu'on parle souvent du mental qui doit être très fort pour finir un semi, un marathon, une course longue, mais en vrai le mental doit être très fort pour finir un 5K ou un 10K parce que l'intensité est très différente mais la difficulté est tout aussi importante. Mais l'état d'esprit, ce qu'on appelle le mindset en anglais, c'est presque encore plus important parce que activer son mental, ça ne peut pas se faire si on n'a pas en, si on n'a pas le bon état d'esprit de base. On n'arrivera pas à ce stade où on a besoin du mental si on n'a pas l'état d'esprit. Disclaimer quand même, je ne suis pas coach en prépa mentale, je vais juste vous partager mon expérience. C'est aussi pour ça que je vais partir de quelques définitions formelles des termes avant de me lancer. Dans un premier temps, ce que j'ai trouvé sur la définition de la force mentale, c'est le fait de réussir à atteindre des buts malgré les difficultés et les obstacles qui se présentent. Ça, ça me parle. En effet, quand est-ce qu'on a besoin de sa force mentale ? Bah, c'est au moment où il y a des vraies difficultés, des vrais obstacles qui vont se présenter dans nos courses. La force mentale, c'est pas de prendre son ravito au 10e kilomètre d'un semi ou d'un marathon. La force mentale, c'est quand on commence à avoir extrêmement mal aux jambes, avoir notre cerveau qui nous demande de ralentir et qu'on est capable de dire « Non, je me suis entraîné pour ça, je ne ralentirai pas et je continuerai malgré tous les signaux que le cerveau peut envoyer. » Donc, exactement l'inverse de ce que j'ai fait sur ce semi de Zurich, mais quand on est en confiance et qu'on est fort mentalement, et ben c'est ça qu'on va faire. On va pas écouter les signaux du corps qui vont nous dire « ralentis, 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 t'as mal là, t'as mal là, t'as mal là, c'est dur ». Ça, c'est juste des signaux que le cerveau envoie pour essayer de nous faire ralentir. Si on est fort, on va passer outre ces signaux-là et continuer à l'allure qu'on avait préparée. Voilà, plus facile à dire qu'à faire, comme d'habitude. Maintenant, l'état d'esprit. Avant ça, petite gorgée, sinon... On est sur un café du Pérou aujourd'hui, très très bon. Voilà pour le petit passage café. Donc, la définition de l'état d'esprit, le mindset, l'état d'esprit, la mentalité, j'ai mis trois mots parce que c'est trois mots qui sont synonymes et qui peuvent être utilisés. Mindset, état d'esprit, mentalité, c'est l'ensemble des croyances et des attitudes et des perceptions mentales qui influencent la manière dont un individu aborde et pratique son sport. Voilà, très différent. On ne parle pas de comment on est dans le moment difficile, on parle de comment on aborde les choses. Et ça, c'est différent. C'est si on aborde les choses d'une certaine manière, on va les voir positivement ou négativement. Si on les voit négativement, eh ben, ça va être plus dur dès le début. Je vous en parlais pour ma course de Zurich. Si on les aborde en étant positif, en se disant « je suis prêt, j'ai tout fait », eh ben, ça va être beaucoup plus facile. Si on va un peu dans le détail là-dessus, eh ben, si vous croyez que vous êtes nul, vous serez nul. C'est pour ça que j'ai un peu du mal quand je vois dans les commentaires de mes posts ou des vidéos « ah oui, mais moi, je suis nul ». Bah, je peux pas répondre directement « arrête de dire que t'es nul, sinon tu vas rester nul », parce que ça, de manière brute comme ça, sans le contexte, sans l'explication que je peux avoir ici, ça sera évidemment très mal perçu. Mais c'est un fait. On est ce que l'on croit. Enfin, en tout cas, on va devenir ce que l'on croit, parce que si on est convaincu qu'on est nul, bah, je vois pas comment on peut en sortir. En fait, il faut se convaincre qu'on peut s'améliorer, qu'on peut être meilleur. Et du coup, bah, si on se convainc qu'en s'entraînant, on va être meilleur, eh ben, on va le devenir petit à petit. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut arrêter de se dire qu'on est nul, sinon bah, on a de fortes chances de rester nul, en tout cas à ses yeux. Parce que la nullité, c'est toujours relatif. Hein. Donc arrêtez de vous dire ça. Si à des moments où vous dites « Ah, je suis nul, je fais rien de bien », sortez-vous ça de l'esprit, parce que c'est la pire chose à faire, c'est le meilleur moyen en tout cas de rester dans de la négativité et de ne pas avancer. Si à l'inverse, vous croyez que vous pouvez vous améliorer et atteindre un niveau qui vous rendra fier, eh ben, je vous garantis que vous y arriverez, tout simplement. Ça vous prendra du temps, de la méthode, de la rigueur, évidemment, ça ne retire rien à tout ce que ça prend pour y arriver, mais c'est comme ça. Si vous êtes convaincu que vous pouvez le faire, eh ben vous allez avoir beaucoup plus de capacité à le faire. Vous allez être beaucoup plus motivé à le faire au quotidien. Donc, essayez d'avoir cet état d'esprit positif sur le long terme et ça va vous servir. Et pour un jour de course, bah c'est pareil, entre guillemets. Parce que croire qu'on ne va pas y arriver, bah c'est ce syndrome de la prophétie autoréalisatrice. C'est on ne va pas y arriver parce qu'en fait, on s'est auto-convaincu qu'on n'allait pas y arriver. Encore une fois, Zurich, peut-être que j'y serais pas arrivé dans tous les cas, mais en y allant en mode « je vois pas comment ça peut bien se passer », bah, y avait de grandes chances que ça se passe mal, tout simplement. Donc, comme je le dis toujours, faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est pas parce que je vous dis des choses que là, à tête reposée, j'ai les bons concepts en tête que je vais les appliquer 100% du temps au quotidien. On est tous humains. C'est pour ça qu'il ne faut pas se flageller non plus. Il y a des moments où on n'y arrive pas et c'est comme ça. Et ça fait partie aussi de ces moments qui vont nous faire rebondir. Quand on a fail, quand on a échoué sur quelque chose qu'on pensait maîtriser, qu'on a déjà réussi dans le passé, et bah, ça nous pique un petit peu. On se dit, mais il y a quelque chose que j'ai mal fait, la prochaine fois, je reviendrai plus fort et je ne referai pas les erreurs qui m'ont amené là, tout simplement. Moi, l'erreur, c'est peut-être juste d'avoir participé à cette course, mais dans tous les cas, il y a des choses à ne pas refaire. Donc, ça, c'est certain. Mais il y aura toujours des échecs, ça fait partie de la vie. Si on n'échoue jamais, c'est qu'on tente pas assez fort, entre guillemets. On a besoin aussi d'échecs pour nous remotiver pour le futur, ça fait partie du jeu. Donc, admettons plutôt que là, vous vous êtes préparé pour une course. C'est la course que vous préparez depuis 3 à 6 mois, vous êtes en forme, le travail a été fait, vous vous êtes entraîné correctement, vous avez réussi vos séances, il n'y a pas d'alerte en fait. Vous pouvez être confiant. Dans ce scénario-là, vous pouvez être serein parce que vous avez tout fait pour y arriver. Et le principal, quand on arrive sur une course, c'est d'avoir tout fait pour réussir. Et là, à ce moment-là, c'est le moment où il faut se mettre en mode « Ok, je suis confiant, je peux y arriver. » Et après, et ça, en fait, ça va nous permettre d'économiser la force mentale. Parce que plus on va être serein, plus on va être confiant, moins on aura besoin de force mentale avant de commencer la course. Si on est déjà en bataille mentale avec soi-même la veille, le jour de la course, au début de course, bah, quand il s'agit de vraiment utiliser sa force mentale, bah, on n'en a plus. Les obstacles, c'était des obstacles avec nous-mêmes qu'on a dû passer. Donc, si je prends un moment où je ne suis pas au max et où ça s'est bien passé, on va prendre pour moi le 10 km de Lille en mars. J'y suis allé sans me limiter. Clairement, je savais que j'étais pas au top, c'était un fait, mais j'y suis allé en me disant « je vais donner le meilleur de moi-même ». Et ça, bah déjà l'état d'esprit, il est bien meilleur que celui que j'avais au semi de Zurich. Pourtant, ça reste une course que j'avais pas préparée spécifiquement, où j'étais pas à 100%. Donc la frontière, elle est fine hein, en général, mais si on est plutôt là sur une course où on est en forme, qu'on est préparé à 100%, bah, c'est pour ça que même là, mon objectif, souvent on me dit « c'est quoi l'objectif de chrono ?» Bah, je vise rarement un chrono précis en fait. Je vise de donner le meilleur de ce que j'aurai dans les jambes ce jour-là. Mon but, c'est de rien regretter et de me dire que j'ai tout lâché sur le parcours et que, je pouvais pas faire mieux, entre guillemets. Si j'arrive pas à trouver de détails où je me dis « ah mince, j'aurais pu faire ça mieux sur la course », quel que soit le chrono, eh bah, je peux être fier à la fin. Donc, si je prends quelques exemples de fourchettes de performance que je me donne, et bah Valence, le marathon de Valence en décembre, j'y allais pour faire entre 2h30 et 2h36. J'estimais que dans tous les cas, avec ma prépa, battre le record, mon record de 2h37, c'était quasi assuré, sauf gros problème évidemment, hein, comme toujours, ça reste une course, mais j'estimais que 2h36, c'était vraiment le chrono le plus bas que je pouvais faire. Et 2h30, il fallait que ça soit un miracle, en fait. Il y avait quasiment aucune chance que je fasse 2h30, mais je l'ai laissé dans ma fourchette haute. Il faut jamais se limiter. On ne sait jamais, hein. Sur un jour exceptionnel, parfois, il y a des choses qui se passent et on ne sait pas pourquoi. On a été beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu. Bon, bah, la journée très moyenne, j'aurais pu me dire que je n'y arriverais pas au 25e kilomètre. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pendant 2 km. Hein. Et bizarrement, quand j'ai commencé à rentrer dans ce cercle de « ah, je vais pas y arriver », et bah automatiquement, j'ai ralenti. Et puis, bah, jour de course, là, avec l'état d'esprit du jour de course, je suis repassé vite dans ce mode « non, tu donnes le meilleur », couplé à la fameuse force mentale. Et c'est là que son rôle arrive, en fait. Quand on est quand on commence à être dans le dur de sa course, c'est là qu'on active sa force mentale. Pas avant. En tout cas, avant, on a essayé de l'économiser au maximum. Du coup, la force mentale, le fait de réussir à atteindre ses buts malgré les difficultés et les obstacles qui se présentent, eh ben, c'est là où on se rend compte que devenir une personne forte mentalement, ça veut dire qu'il faut comprendre que les émotions affectent la pensée. Donc c'est difficile, mais il faut prendre des meilleures, il faut prendre des bonnes décisions dans les moments difficiles. Et c'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter les émotions, il faut compenser les émotions qu'on peut avoir, les émotions négatives, avec de la logique. Il faut se dire, non, je l'ai déjà fait, je me rappelle de cet entraînement, j'étais déjà dans la difficulté, pourtant j'ai été au bout. Bref, il faut essayer de mettre de la rationalité sur ces moments et de se concentrer sur ce que l'on maîtrise pour avoir du mental, être tenace, ne pas lâcher à la moindre difficulté qui va passer par notre cerveau, parce que de toute manière, ce qu'il faut se dire, c'est que dans une course, ça va être une succession de petits moments difficiles qui vont passer à l'intérieur de notre cerveau. À partir d'un certain moment de la course, là, aux deux tiers environ, à partir de là, on rentre vraiment dans le rouge, entre guillemets, dans cette zone où le corps n'a absolument pas envie d'être, car lui, il veut être en homéostasie, dans un mode contrôle, donc il va forcément nous inciter à ralentir. Et quand je dis inciter, le mot est faible. Il va essayer de nous forcer à ralentir le plus possible. Et il va le faire avec des signaux qui vont être de plus en plus forts. Donc, au début, on va avoir des petites pensées négatives qui vont essayer de nous faire ralentir. Ok, ça c'est le niveau 1 du jeu et on va réussir tranquillement à le passer. Et puis après, on va avoir des signaux un petit peu plus forts de douleur, de trucs, niveau 2, niveau 3, niveau 4, comme un jeu vidéo en fait. Vous pouvez vous dire que votre personnage, il peut aller jusqu'au niveau 99. Le cerveau est très inventif et le niveau 100... on ne peut pas l'atteindre. Le niveau 100, c'est blackout. Le corps a décidé que de toute manière, c'était au-delà de ce qu'il était capable de faire et il va nous bloquer. Mais je vous rassure, quand vous voyez que les élites, ils font pas des blackouts, ils arrivent, ça veut dire que même eux n'arrivent pas à aller au niveau 100. Donc nous, notre but en tant que coureur amateur, c'est de se dire que dans tous les cas, on ne va pas faire un blackout. Si on s'est bien entraîné, si on s'est bien ravitaillé, autant en nutrition qu'en hydratation, il n'y a pas de raison. Ça peut arriver, évidemment. Il y a toujours 1 sur 50 000 au Marathon de Paris. Évidemment, il y a des statistiques, mais il y a très peu de chances que ça soit par l'intensité de votre effort que vous en arriviez là. Souvent, il y a des signes, il y a autre chose derrière. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ce que je veux dire, c'est que le mental dans la course, y a des jours où on reste au niveau 1, comme moi à Zurich, j'ai pas passé le niveau 1, hop, c'est dur. Allez, on va dire que j'ai été au niveau 3, on va être gentil. On va être gentil, j'ai passé le niveau 1 et le niveau 2 en mode bon, ça c'est facile, je connais. Et au niveau 3, j'ai dit ok, j'abandonne, game over. Alors que peut-être qu'au marathon de Valence, j'avais réussi à aller au niveau, 70. Je sais, c'est une échelle subjective évidemment, mais il faut se dire qu'on peut aller jusqu'à 99. Et en fait, à chaque étape, le cerveau va essayer de nous rajouter un petit niveau de difficulté. Et à nous d'être forts mentalement pour continuer, être tenaces, se battre face à ça et ne pas ralentir. Extrêmement difficile. Mais c'est le jeu c'est le jeu qui se passe dans une course et c'est le challenge qu'on va chercher. Donc j'espère que ça a été clair. Mais pour moi, j'ai envie de dire que l'état d'esprit est supérieur à la force mentale. Parce que tout simplement, si on n'y croit pas, dans tous les cas, on n'y arrivera pas. Si on y croit, qu'on s'est mis dans un état d'esprit positif, quand on aura besoin de la force mentale, elle va décupler notre capacité à réussir. Et c'est là où, pour moi, on devient vraiment indestructible. Et indestructible, attention avec ce mot, je sais que la confiance extrême en France, ça peut être vu comme de l'arrogance. J'ai envie de dire non. Quand on a tout fait à l'entraînement, que tout a bien marché, qu'on est prêt à 100%, des fois, la confiance en soi qu'on peut avoir, elle peut paraître arrogante en France. Mais non, c'est juste que vous avez bien fait les choses, que vous êtes confiant sur votre capacité à réussir et que vous avez le bon état d'esprit pour y arriver, en fait. Donc, ne vous trompez pas, ne vous conformez pas, ne vous mettez pas en mode de conformisme. Il faut que je minimise. Essayez d'être, et je parle à moi-même aussi, essayez d'être vraiment dans la confiance à 100%. Vous avez tout fait, vous allez tout faire et vous essaierez d'être le plus fort mentalement quand ça sera le moment. Ce mindset, ce mental, eh bien, je le disais dans ma course, je le disais tout à l'heure, mais ça se remet en question à chaque entraînement, à chaque course. Il faut se le dire, on n'est jamais fort mentalement. Ça, on peut entendre des fois dire « Ah, mentalement, je suis plutôt fort. » Ok, cool, mais attention. En fait, croire qu'on est fort mentalement, c'est justement se mettre à risque. Parce que quand on croit qu'on est bon dans quelque chose, c'est là où on va se relâcher. Et le mental, bah, il pardonne pas le relâchement. Parce que à chaque fois, on va être confronté à la même difficulté. On va repasser dans les mêmes processus, les mêmes étapes. Je vous parlais du niveau 1 à 99 dans la difficulté. À chaque course, on va repasser par le niveau 1, et le niveau 2, et le niveau 3. Et à chaque fois, en fait, il faudra rejouer le jeu au complet et essayer d'aller le plus loin possible. Donc, on a beau connaître ces sensations, on a beau connaître ces moments, ça en devient pas plus facile. Et surtout, on les oublie. Ça, c'est quelque chose que les marathoniens en particulier savent, c'est que la difficulté qu'on a après le 30e kilomètre d'un marathon, bah, elle est extrême. Et après la fin de course, on se dit plus jamais. Et on a quand même envie d'en refaire finalement quelques jours après. Donc ça veut dire qu'on oublie clairement à quel point c'est difficile. On se détache de cette difficulté. Donc, eh bah, c'est la preuve qu'à chaque fois, il faut se remettre à 100% dedans si on veut que ça marche. Donc la quête n'est jamais au maximum. Maintenant, si on s'attache à avoir l'état d'esprit positif le plus souvent possible et ne pas se cacher face aux difficultés quand elles arrivent dans l'entraînement, bah, là, on met toutes les chances de son côté pour que ça marche le jour J. Pour moi, tout s'entraîne, que ça soit les muscles, l'estomac, si on parle de ravitaillement, c'est pas le sujet, mais le mental, l'état d'esprit, bah, ça s'entraîne aussi. Et le jour d'une course, bah, vous êtes seulement la somme de ce que vous avez travaillé à l'entraînement. Rien de plus. Il n'y a pas de magie de jour de course. C'est comment vous allez être le jour d'une course, bah, c'est ce que vous avez fait avant qui va le décider. Donc, plus vous aurez été bon sur les aspects état d'esprit mental dans la prépa, plus vous réussirez à l'être le jour J. Donc, bah, oubliez jamais que le cerveau, c'est le maître de notre effort. Il a le pouvoir de nous faire arrêter. Mais encore une fois, la limite de dangerosité pour votre corps, elle est beaucoup plus loin que ce que votre cerveau vous laissera faire. Vous avez de la marge, vous pouvez entrer en bataille avec votre cerveau et tenter de pousser toujours plus loin votre tolérance à la difficulté et à la douleur. Ça fait 20 ans que je le fais et bah, ce jeu n'est jamais gagné. Encore une fois, quand je disais que je suis peut-être au niveau 70, c'est très bien, mais c'est encore loin du niveau max et je pense que le niveau max, il est inatteignable dans tous les cas parce que notre cerveau sera toujours plus fort que nous en bout de ligne, tout simplement. Maintenant, l'état d'esprit, il ne faut pas se tromper avec ça. Il ne faut pas avoir un état d'esprit guerrier tout le temps, dans toutes les conditions. Je suis convaincu que l'état d'esprit, il faut l'adapter à la forme du jour. Sinon, ça devient contre-productif. Parce que l'état d'esprit unique de la réussite, bah, il n'existe pas. Le bon état d'esprit, c'est celui qui colle avec bah, comment vous vous sentez aujourd'hui, physiquement, mentalement, psychologiquement. C'est pour ça aussi que bah, se présenter au départ d'une course quand on sait qu'on n'est pas à 100%, notamment mentalement et psychologiquement, bah, forcément, c'est dur d'adapter l'état d'esprit. Il vaut mieux ne pas faire de course à ce moment-là. Quand on est inscrit, on l'a fait quand même et on tombe dans ce que j'ai fait à Zurich, certes. Mais si on parle plus de l'entraînement, bah, on peut adapter un peu plus son état d'esprit sur un jour d'entraînement. Ce qui veut dire que bah, si vous êtes dans un bon jour, que vous vous sentez vraiment bien, que vous êtes reposé, qu'il n'y a aucune raison de ne pas performer, bah, là, vous pouvez être conquérant. Vous pouvez vous mettre dans un état d'esprit de quête de performance. Et si vous êtes dans un mauvais jour, bah, c'est pas la peine de vous convaincre que vous êtes conquérant si vous savez que vous êtes totalement cramé. Au final, si vous savez que vous avez mal dormi ou que vous êtes malade ou que vous avez mal mangé, que vous êtes hyper stressé par votre journée de boulot, et bah à la fin, comme on dit toujours, le stress c'est du stress et vous n'allez pas pouvoir donner votre maximum sur la séance. Dans ce cas, bah, la bonne approche, c'est peut-être justement d'adapter. potentiellement adapter sa séance à la baisse s'il y a besoin, mais surtout adapter ses attentes, son approche de la séance. Il faut être plus indulgent avec soi-même, plus gentil avec soi-même quand le contexte n'est pas favorable à réussir. Donc, évitez de vous mettre trop souvent dans un contexte compliqué si vous voulez vraiment progresser et arriver au top sur le jour de la course. Mais pour autant, il y a des exceptions et il faut aussi savoir s'écouter quand tout n'est pas mis bout à bout pour réussir. Et bah, y a des séances, on a des jokers sur ces prépas. Mais il faut quand même essayer d'être dans un état d'esprit et surtout dans une forme qui nous permet d'avoir le bon état d'esprit et d'utiliser sa force mentale à l'entraînement. Voilà, je sens que je me suis un peu embourbé sur cette fin à propos de la forme du jour, mais je pense que vous avez compris le concept. Et quand on parle d'état d'esprit, bah, il faut aussi mettre l'état d'esprit qui correspond à la séance. Ça sert à rien d'arriver avec un état d'esprit guerrier de « je vais tout casser » si vous êtes sur un footing, évidemment, mais aussi si vous êtes sur une séance de fractionné légère, facile. Pour cette partie, je vais reprendre le niveau de difficulté des séances campus pour que ça soit plus clair. Justement, pour que ça soit clair, sur campus, on a numéroté on a noté la difficulté des séances de 1 à 5. 1 étant un footing lent au lendemain d'une séance où on doit vraiment être en mode easy peasy. 3, ça va être le début des séances de fractionné les plus faciles en début de cycle ou certaines sorties longues. Et 5, ça va être les séances de fractionné de fin de cycle qui sont très dures. Donc là, ça fait 2 à 3 mois qu'on travaille une qualité. On est sur des séances qui vont être vraiment très difficiles où il faudra donner son maximum pour y arriver. Et bah du coup, il faut que l'état d'esprit soit adapté aussi pour les séances faciles. Si on se met en mode « je vais me promener, je vais essayer de courir en dépensant le moins d'énergie possible, apprendre à m'économiser, bien respirer, me relâcher, me faire plaisir », bah ça, c'est un état d'esprit adapté pour un footing. Et c'est bien de partir avec cet état d'esprit aussi. Ou je vais écouter un podcast, il fait beau, c'est cool, je vais profiter de la nature. Bref, ça, c'est l'état d'esprit calme, relâché qu'on a besoin pour les footings. Et pour les fractionner, eh bien, mettez le curseur de votre implication en fonction de la difficulté de la séance. Et vous aurez forcément besoin à un moment d'utiliser votre force mentale. Ne vous trompez pas non plus, parfois, bah, les séances qui sont notées 3 sur 5, qui vous semblent faciles sur le papier, et bah, si on n'en met pas suffisamment en termes d'état d'esprit, et bah, c'est des séances qu'on va quand même pouvoir trouver difficiles. En tout cas, moi, c'est un classique pour moi. Des séances où je me dis oh, « bah, ça va, c'est bon, c'est une petite séance easy pour entretenir ». J'y vais en mode avec un état d'esprit trop facile, j'ai laissé le mental à la maison. Et la séance devient dure tout simplement parce que j'avais mal calibré mon état d'esprit. À l'inverse, si on va sur une séance 5 sur 5, là, il faut se préparer comme si c'était une course. On y va avec tous les curseurs au max parce qu'on va en avoir besoin quand ça sera difficile. Tout simplement. Allez, on va finir avec quelques astuces mentales que vous avez déjà entendues chez moi, mais je vais essayer de vous les expliquer avec le concept, le contexte d'aujourd'hui, parce que je pense que c'est important de se dire que oui, le cerveau reste le maître de l'effort, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais on peut clairement essayer de le berner ou de contourner son fonctionnement pour diminuer la perception de difficulté. En fait, c'est ça qui va nous permettre de passer certains niveaux dans la difficulté. Encore une fois, là, si on est au niveau 40 de la difficulté, bah, ça devient compliqué de le faire juste en se disant « ouais, c'est bon, je vais y arriver ». Il y a un moment où il faut utiliser des petites astuces pour passer les caps de la difficulté. Le mental doit être élastique. On doit réussir à utiliser différentes manières pour se motiver jusqu'au bout. C'est pas forcément la même technique qu'on utilise du kilomètre 30 au kilomètre 42 sur un marathon. On va essayer un petit peu d'alterner pour voir ce qui marche et trouver le petit truc en plus qui va nous permettre d'aller plus loin sans ralentir. Donc, si je prends mon 10 km. Avant d'aller plus loin, j'étais dans le mal fort, très fort, dès le 6e kilomètre, voire un peu avant, et j'étais tout crispé, alors qu'au 9e, j'étais toujours essoufflé, toujours dans le dur, mais j'ai réussi à accélérer et déployer ma foulée. Entre les deux, entre ce 6e et le 9e, il y a 3 km. Autant vous dire que sur un 10K, c'est beaucoup, 3 km. Et j'ai pas ralenti. Pour autant, j'ai utilisé à peu près toute la palette de ce que j'avais en moi ce jour-là. C'est pour ça qu'il y a un gros contraste entre le 10 km de Lille, qui s'est plutôt bien fini avec la forme du jour, et Zurich, qui s'est mal fini malgré la forme. Donc, bref. Astuce numéro 1, accepter la difficulté. Pour moi, on en a déjà parlé pas mal de fois, mais s'il y a bien une chose qui rend la fin de course un peu moins difficile, c'est le fait de ne pas lutter contre cette difficulté, mais de l'accepter. En fait, si vous acceptez que ça va être difficile, que vous ne mentez pas à vous-même, oui, à un moment, je vais en chier, ça va être une douleur intense, plus forte qu'à l'entraînement, parce que je vais me mettre un cran au-dessus, c'est le plus gros entraînement de la prépa, la course. Donc oui, on va aller dans des zones qu'on ne connaît pas. Et si on se dit que c'est normal et que ça fait partie du jeu, qu'on vient pour ça, et qu'en plus on va avoir plein de coureurs autour de nous qui ressentent la même chose, là d'un coup ça devient un peu plus facile, ou en tout cas un peu moins difficile. C'est pas que la douleur elle est plus là, mais on la ressent pas pareil. On est capable de faire avec, et on va continuer d'avancer malgré cette douleur. C'est vraiment un état d'esprit là-dessus, c'est de se dire que ouais, je sais que c'est dur, mais je suis venu pour ça et je vais pas lâcher parce que je suis venu exactement pour ce moment. C'est le moment de vérité où on est face à soi-même et où on doit donner son max, tout simplement. Après, il y a aussi la technique de se motiver avec de petits objectifs. Si je reprends un marathon, par exemple, vous êtes au 32e et vous vous dites « Ah là là, il reste encore 10 km, je ne vais jamais tenir à cette vitesse-là. » Ça, c'est le meilleur moyen de se compliquer la tâche. Parce que oui, on réfléchit sur quelque chose qu'on a du mal à imaginer parce que c'est un temps long, c'est beaucoup de kilomètres, c'est des kilomètres qu'on n'a jamais fait à ce moment-là. On n'a jamais été du 32e au 42e pendant son entraînement. Donc oui, si on commence à réfléchir comme ça, c'est dur et ça devient extrêmement dur. Et ça marche pour toutes les courses. Sur un 10 km, on ne fait jamais 10 km à l'heure 10 km. Donc à chaque fois, on va rentrer dans une zone qu'on ne connaît pas. Ça, c'est normal. Et du coup, il faut se dire qu'à partir de là, on ne se concentre pas sur l'arrivée, on se concentre sur des petits détails. Ça peut être plein de choses. Ça peut être de se concentrer sur chaque kilomètre, ça peut être de penser au prochain ravitaillement, ça peut être juste de regarder des points de repère sur le parcours, on se dit « Allez, je continue, je lâche pas jusque-là, et après on verra. Et après je vais jusque-là, et après on verra. » C'est vraiment de pas trop se poser de questions. Pour moi, j'ai même tendance, quand c'est vraiment dur, à réduire ça à un pas après l'autre, pour pouvoir donner en gros le meilleur de soi-même à chaque pas. Parce que chaque foulée est importante. Quand on est dans le dur, le ralentissement, il n'est pas loin. Il peut être à n'importe quelle foulée en fait. Donc il faut se concentrer sur garder sa technique, garder la même intensité, garder son relâchement. Et ça, c'est très très dur quand on est fatigué. Donc il faut essayer de ne penser qu'à ça. Et en fait, un pas après l'autre peut être la meilleure technique pour ça. Et même si ça ralentit dans tous les cas, votre but, c'est de ne surtout pas lâcher. Parce que oui, parfois, on est tenté de lâcher, mais en fait, quand on commence à lâcher un tout petit peu, à ralentir, c'est là où on part dans un cercle négatif des fois de « Oh là là, ça y est, mon objectif, il est totalement perdu. » Mais au final, si on s'accroche, on se rend compte que sur les distances longues, on ne perd pas tant que ça. Les secondes sur un 10 km, ok, elles s'effacent très très vite. Mais si je reprends l'exemple de mon premier marathon où j'étais parti sur 3 heures, j'aurais jamais tenu 3 heures, ça c'est un autre sujet, mais en ralentissant à partir du 30e et en marchant à plusieurs endroits et en étant vraiment dans le dur, très très dur, eh ben, j'ai perdu 8 minutes. Bon, bah, c'est pas tant que ça, en fait. Finalement, 3h08, c'était déjà un très beau chrono pour un premier marathon. Donc, alors que moi, j'ai eu l'impression de perdre une demi-heure sur cette partie-là de la course, tellement j'étais dans le dur. Donc, ne lâchez rien. Et vous ferez les comptes à l'arrivée de toute façon. Vous aurez largement le temps de faire les comptes. Votre seule mission quand vous êtes dans la course, c'est de perdre le moins de temps possible si ça commence à ralentir. C'est de, ok, vous n'êtes plus sur votre allure de base, bah essayez de rester sur l'allure que vous avez actuellement. Et si ça re-ralentit, bah essayez de rester à cette allure-là, le plus longtemps possible. Un pas après l'autre. Et oui, le renforcement positif, c'est prouvé, ça fonctionne. Donc, quand votre cerveau essaye de vous emmener dans des zones un peu négatives de votre cerveau, avec des idées noires de abandonne, ralenti, c'est trop dur, pourquoi tu fais ça, et bah, c'est à ce moment-là précis qu'il faut repenser à du positif. Il faut contrer le négatif par du positif. Et si on est capable de mettre plus de positif que de négatif, et bah là, on va continuer dans un bon état d'esprit. À la fin, évidemment, c'est compliqué. Mais si vous pensez notamment aux séances très difficiles de votre plan d'entraînement où vous en avez vraiment chié, mais vous n'avez pas lâché, bah, vous allez vous dire que vous n'avez pas fait ça pour rien, que vous en êtes capable aussi aujourd'hui en fait. C'est pour ça que j'aime bien repenser à des séances clés la veille ou le matin de la course, parce que je me les remets dans le cerveau, je me les recharge entre guillemets dans ma mémoire court terme, et comme ça après je peux les utiliser dans les moments où j'en aurai besoin. Et pensez à ceux qui vous ont aidé dans votre prépa marathon, que ce soit vos collègues de course, vos proches. Bref, sur le parcours, vous allez aussi avoir du monde hein, à côté. Peut-être que vos proches, ils sont là, que vous allez les voir au kilomètre 37. Là, vous êtes au 32. Et bah, allez, pensez à ça jusqu'au 37 et essayez de vous donner au max pour que vous soyez fiers de vous et qu'ils soient fiers de vous aussi quand ils vous croiseront. Et puis mon dernier petit conseil, vous le connaissez, souriez plutôt que de grimacer. Il y a un moment où, si vous voulez vous donner le petit boost, eh ben, le sourire permet de hacker le cerveau. Un sourire, on peut se le faire à soi-même le sourire, mais l'avantage sur une course, c'est qu'on peut sourire aux gens, aux spectateurs qui sont sur le bord. On ne les connaît pas, on s'en fout, c'est pas grave. Un petit sourire, souvent ils vont nous le rendre et ça fait vraiment du bien. C'est vraiment quelque chose qui va avoir tendance à minimiser la sensation de difficulté. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est un hack parce que le cerveau a cette habitude de si on sourit, c'est quelque chose de positif et doit y avoir une réaction immédiate liée à ça. Donc tentez-le, je sais que sourire aux spectateurs, ça peut être quelque chose de très positif. Je repense à quand je croise Elodie en général sur la fin des parcours, et bah là ça me donne toujours un petit boost. Pas long évidemment, mais ça fait toujours plaisir d'avoir ce petit boost de positif et de moins de difficultés pendant quelques minutes. Bon, je pense que sur les aspects mentaux, on en a assez parlé. Maintenant, petite conclusion, bah, n'hésitez pas dans tous les cas à commenter si vous avez des questions sur tout ça. Mais pour conclure, je vous avais promis un peu de trail. J'en ai pas beaucoup parlé, je l'ai vu un peu sur Strava et sur Insta quand j'ai partagé des sorties avec du dénivelé. On m'a dit « mais tu prépares quoi ?» C'est vrai que j'en ai très très peu parlé. Donc ceux qui sont encore là après 53 minutes, eh bien je vais vous en dire un petit peu plus. Vous aurez la primeur de tout ça. Je vais participer à une des courses de la Maxi Race. Donc la Maxi Race, c'est un trail assez connu quand même à Annecy, qui sera le support des championnats d'Europe d'ailleurs, championnat du monde, championnat d'Europe je crois, cette année, et qui est une très belle course parce que Annecy c'est quand même très très beau. Donc je devais y aller avec Iron et je devais prendre un dossard sur le 42 km, ce qui était déjà une très belle distance. C'est celle que j'ai faite au marathon du Mont-Blanc l'année dernière, ça me convenait bien. Le fait est que quand j'ai voulu prendre mon dossard, et bah le 42 finalement, il était plein, même avec les dossards d'Iron. Donc, bah je me suis retrouvé sur le 60 km. 58, 60, je ne sais pas exactement, mais dans tous les cas, ça va être une distance que je n'ai jamais fait, puisque j'étais sur 42 l'année dernière au marathon du Mont-Blanc, donc sacré jump en termes de distance. En termes de dénivelé aussi, on avait 2500 au marathon du Mont-Blanc. Là, je crois qu'il y a plutôt 3500 à la Maxi Race. 3500 mètres de dénivelé positif. Bah perso, ça me parle pas beaucoup parce que je ne suis pas un trailer. Ce que je sais, c'est que ça fait sûrement beaucoup. Donc, je vois le positif. Bah, ça va être un nouveau défi. Aller sur quelque chose que je connais pas en termes de distance, ça me plaît. Sortir de sa zone de confort. Y a un autre point positif, c'est que c'est peut-être un mal pour un bien parce que le départ du 60 km, il est à 5h du matin. Ok, vous allez me dire comment on peut voir ça positif de partir à 5h du matin parce que oui, la navette qui part d'Annecy, elle part à 3h40. Donc ouais, ça va pas être facile au milieu de la nuit. Mais le 42, lui, il partait à 10h. Et faire le 42 à 10h, ça veut dire passer la majeure partie de sa course, s'il fait beau et chaud, dans la partie chaude de la journée. Là, au moins sur le 60, on va avoir quelques heures, au moins 3-4 heures assez fraîches. Donc je pense une petite moitié de course. Je ne sais pas exactement combien ça va me prendre de faire 60 km. Mais ouais, je pense au moins une petite moitié de course à la fraîcheur. Donc je pense que ça peut être positif. Et en termes d'entraînement, pour le moment, je m'entraîne pas vraiment différemment de l'année dernière, à part que je suis plus au Mont-Royal, donc c'est plus compliqué d'avoir du dénivelé au Havre qu'à Montréal. Paradoxalement, à Montréal, on a quand même une belle montagne au milieu de la ville, avec un bon 150 mètres de dénivelé facilement accessible en trail. Là, autant vous dire que c'est plus compliqué. J'ai mis quelques semaines, vous avez pu le suivre peut-être sur Strava, à tester des parcours. J'ai trouvé de quoi faire au Havre. C'est pas du trail, hein. Il y a beaucoup de, principalement du bitume, mais j'ai trouvé un petit 90 mètres de dénivelé en 800 mètres. Donc, en faisant des allers-retours, je suis capable d'avoir un bon 1000 mètres de dénivelé en moins de 2 heures. Donc, ce qui est très correct. Pour préparer ça, même si c'est pas parfait, on peut quand même bien avancer là-dessus, et c'est ce que j'ai fait sur mes premières sorties de trail en mars et en avril. Évidemment, mon travail à la salle sur la muscu, il va servir aussi. J'ai continué de build-up au fur et à mesure sur cet aspect-là, donc ça, je suis assez confiant. Et le travail en descente, par contre, ça c'est bien parce que bitume égale plus de contraintes encore sur les jambes et du 1000 mètres de négatif sur du bitume, si on est suffisamment fort pour pas se blesser, ça peut rendre plus fort. Il faut faire très très attention avec ça parce que ce que je viens de dire est important. Il faut que le corps soit très solide pour pouvoir l'encaisser. Moi, j'estime en tout cas qu'avec mon entraînement de muscu et la petite pliométrie que je fais depuis cet hiver, ça devrait aller. Mais il faut quand même faire très très attention avec le dénivelé négatif qui peut vraiment blesser facilement. Voilà pour le petit disclaimer. Maintenant, je vais vous garder ça pour un peu plus tard. Mais j'ai commencé à travailler un peu plus l'aspect technique aussi. Technique est un grand mot. Il faut que j'aille voir. Dans tous les cas, je vais aller à Annecy pour repérer le terrain. Ça, c'est prévu. Je vais aussi aller essayer de travailler les descentes techniques avec un spécialiste. Et on va essayer de s'améliorer sur tout ça parce que je l'ai dit, mais j'aimerais vraiment bien me lancer un peu plus sur le trail à partir de l'année prochaine. Il faudrait que je coche la case 2h30 au marathon. Ça serait très cool de le faire cette année. Si je coche cette case, après, je peux me faire plaisir parce que de toute manière, j'irai pas chercher plus, je pense, sur le marathon. Donc, je pourrais faire une année où le focus serait beaucoup plus, quasi exclusif peut-être sur le trail, et essayer de vraiment progresser dans cette discipline qui m'attire beaucoup. Voilà, je vous en ai dit un peu plus, mais pas trop, parce que je vous en reparlerai dans les prochaines semaines. Il y a pas mal de choses à dire sur le trail. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne fin de footing pour ceux qui sont toujours en train de courir. Ciao, ciao!